Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. Cette semaine, une semaine encore riche en rebondissements, on aurait pu vous parler du tome 2 des œuvres carcérales de Nicolas Sarkozy qui devrait sortir incessamment sous peu puisque ce dernier a été définitivement condamné à un an de prison dont 6 mois ferme pour l'affaire Big Malion et qu'il a bien dit que dès que c'était au-delà de 6 mois, il fallait faire la peine en prison. Il en dit des trucs et puis tout à coup ça se retourne un petit peu contre lui. L'affaire Big Malion, une affaire où le candidat à la présidentielle de 2012, le plus petit de nos grands hommes, avait dépensé près de 2 fois la limite légale de 20 millions pour la campagne. Le surplus était caché dans un système de fausses factures et de coquilles vides entrepreneuriales. Une boîte bidon. Le bénéficiaire était Nicolas Sarkozy. Malgré la débauche de pognon, il n'a pas gagné en 2012. À la place, on a eu le ventre mou de la social-démocratie libérale, à savoir François Hollande. Ouais, est-ce qu'on y gagnait au change? Oui, si, quand même. Décidément, le parti des honnêtes gens, les Républicains, comme le nommait une campagne dont on n'a pas vu beaucoup d'affiches au Mans, et c'est tant mieux, est plutôt rempli de tricheurs. Nicolas Sarkozy et toute sa team de campagne, qui ne suit pas les règles édictées pour éviter que ce soit le pognon qui gagne, comme dans plusieurs pays comme les États-Unis, Bruno Retailleau, qui se fait donner des réponses à Interville. Encore des preuves que la propagande ne décrit pas souvent le réel. Pour enfoncer le clou, il y a quelques années, l'extrême droite lepéniste, le FN devenu RN, s'affirmait comme le parti à la tête haute et aux mains propres. Alors pour le port Altier, on peut en convenir, hein, puisqu'ils ont même le menton un petit peu en avant, c'est le côté « Hey, qu'est-ce que t'as ?» Le côté Kestata, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais les abus de biens sociaux et la création et l'usage de fonds en écriture devraient les inciter à ne pas trop la ramener au RN. Et je ne parle pas de l'arnaque de leur programme social, puisque là quand même c'est pas tant. Il suffit pour cela de scruter les votes des députés RN, le plus souvent en phase avec les libéraux de droite, courant auquel la plupart des députés RN appartiennent. On aurait pu vous parler également de la COP30 qui s'est terminée à Belém au Brésil. Elle s'est terminée sur un texte des plus édulcorés qui engage peu, pas pour longtemps, les parties prenantes qui se réunissent tous les ans pour s'écharper sur chaque mot et créer des fonds financiers par exemple. Ah ça, des fonds financiers, il y en a. Du fonds financier pour la transition, du fonds financier vert, du fonds financier vert clair, vert foncé, vert moyen, vas-y, fais du vert. Eh ben, à Belém, pendant que les peuples de la forêt amazonienne se font refouler par les vigiles, le Centre de Culture Libertaire de l'Amazonie organisait les journées anarchistes anti-COP. Malgré les tracasseries policières, des rencontres, débats, mais aussi des concerts, parce que la lutte n'empêche pas de s'amuser, à la fin, les participants se sont mis d'accord sur une déclaration. Donc j'extrais un paragraphe. Nous comprenons donc, ce sont les participants aux journées anarchistes anti-COP qui parlent. Nous comprenons qu'il n'y a pas de solution à cette crise par le biais du néo-extractivisme pétrolier et minier, du néo-développementalisme technologique qui exige le gaspillage de millions de mètres cubes d'eau potable pour refroidir des centres de données des big data, du monopole des entreprises d'énergie renouvelable telles que l'éolien et le solaire, cette dernière exigeant et encourageant la course minière effrénée aux terres rares, de l'agro-industrie, de la privation des peuples d'exercer leur droit de vivre en paix sur leur territoire, de la privatisation de l'eau et de l'air, du maintien des privilèges des riches et des élites coloniales soutenues par les mauvaises conditions de logement, l'analphabétisme, la fin du génocide, de l'exploitation sexuelle, de la pauvreté de la majorité des populations, principalement noires ou racialisées. Nous ne soutenons pas et nous luttons contre les initiatives visant à atténuer les effets du changement climatique qui ne place pas le véritable problème au centre du débat, à savoir le capitalisme et ses avatars. Eh ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Il est vrai que si on nommait clairement l'ennemi, ce serait plus simple. On aurait pu vous parler de Belgique cette semaine. Entre le 24 et le 26 novembre, des dizaines de milliers de travailleurs présents en Belgique se sont mis en grève contre le gouvernement de Brut Libéral, surnommé Arizona, du fait des couleurs variées représentant les partis en coalition. Des partis tous d'accord pour faire travailler le PK moyen plus longtemps et ne pas trop taxer les riches. Eh ben non, les camarades de classe sociale. On va pas leur taper dessus non plus, on va pas chercher à leur faire dépenser plus, on va pas chercher à les amener à être obligatoirement solidaires. Bon, ben, 3 jours d'action, ouais, ben, pourquoi pas, on attend la suite. À ce propos, le mardi 2 décembre, un appel à la grève pour une journée. Et lancé par la CGT, la FSU est solidaire. Un appel à la grève pour plus de justice sociale et de justice fiscale dans le budget 2026. Au Mans, rendez-vous mardi 2 décembre à 10h30, place de la préfecture. Pourquoi ? Bah, si vous êtes pour plus de justice sociale, pour plus de justice fiscale dans le budget 2026, et pourquoi pas 2027, 2000, bah, jusqu'à la fin de l'humanité, ce serait carrément bien de venir mardi 2 décembre à Le Mans à 10h30, place de la préfecture. On aurait pu vous parler de propagande, attention. Éloignez les enfants. Dans cet extrait de France Info, les bourgeois parlent aux bourgeois.
Un mot peut-être pour terminer sur Noël, sur la suite de la saison aussi. Que dit votre carnet de réservation ?
Il dit que c'est plutôt effectivement bien. Mm-hmm. Et souvent, ces chutes de neige qui arrivent à ce moment-là, avec les images qui tournent dans les médias ou autres, ça booste vraiment les réservations.
Vous l'avez donc constaté cette semaine ?
Je pense que ça va être constaté que les gens vont réserver ce week-end, effectivement.
Merci.
Pour les indécis qui restaient. Voilà.
Effectivement. Même si on se méfie toujours du redout, quand même, qui peut toujours arriver début décembre. Merci Céline Mathéo, directrice de l'Office de tourisme Belledonne Chartreuse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.
Ah, on l'aura deviné, on nous parle des sport d'hiver. Et on sent bien la connivence entre le journaliste et la personne. Alors, peut-être qu'ils se connaissent, mais en tout cas, eh bien, ils participent à la même activité, c'est-à-dire faire de la publicité pour les sports d'hiver. Ce petit « Ah, on se méfie du redout » montre bien que la semaine aux sports d'hiver est quelque chose qu'il peut réserver, le journaliste, oui. Le « on », ah bah, il est dedans. Comme 9% de la population française. 9%. Donc cette information qui va tourner en boucle, bah oui, ça tourne pendant des mois et des mois pour nous inciter à aller au sport d'hiver, ça concerne 9% de la population française. Une personne sur 11 va au sport d'hiver 4 nuitées consécutives selon le Crédoc. Le Crédoc, c'est une association loi de 1901 sous la tutelle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et de la Direction Générale des Entreprises, la DGE. Ah ben c'est pas l'IFOP. C'est pas l'IFOP, comme la plupart des entreprises, a des intérêts à défendre. Et en premier lieu, eh ben son profit. Ici, comme pour l'INSEE, l'enjeu est de ranger les populations dans des cases statistiques. Voilà, ils font des études, des enquêtes, mais ben c'est pas forcément orienté. Le Crédoc avait fait l'étude en 2010 et il arrivait à 8% de la population qui va au sport d'hiver, 4 nuitées consécutives au moins. Et en 2023, ben, rebelote, et c'est là le chiffre de 9%. Mais c'est 9% en moyenne. Rassurons le bourgeois, 20% des cadres, soit un cadre sur 5, va faire un petit tour au sport d'hiver. C'est pour ça la connivence là qu'on entend un journaliste, surtout s'il a une tranche, même si c'est une tranche le samedi, le week-end, sur France Info, à mon avis, il est plutôt pas mal payé. Et 6% des revenus inférieurs à 1350, donc là c'est plus 1 sur 5, non c'est une personne sur 16. Et pourtant, les médias vont être pleins d'images qui tournent, comme le dit la responsable de l'Office du tourisme du domaine de Belledonne Chartreuse, nous montrant le bonheur des privilégiés. Pour la destruction de la faune et de la flore, pour les problèmes liés à l'utilisation de réserves d'eau collinaire, en fait des bassines en montagne, pour les pollutions liées à la transhumance des 9% de personnes qui vont aller au sport d'hiver, pour les conditions de travail des saisonniers, pour le travail au noir chez les saisonniers, les reportages seront beaucoup moins nombreux. Ben ouais, il s'agirait pas de gâcher la fête. Sans transition ou presque, on aurait pu vous parler d'utilisation du droit pour exploiter toujours plus les humains. Les humains appelés ressources humaines par les libéraux en économie, puisque tout est une ressource pour ces personnes animées par l'homo economicus qui est en eux. Mi-novembre, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché. Le repos hebdomadaire n'a pas à avoir lieu au bout de 6 jours de travail, mais durant la semaine civile. Ouais, alors bon, mon gars, de quoi que t'es en train de nous parler ? Alors attention, suivez le raisonnement. Si vous êtes en congé le lundi, de la première semaine. Vous pouvez travailler les 6 autres jours de la semaine jusqu'au dimanche et enchaîner 6 autres jours de la seconde semaine en ayant votre pause le dimanche de la seconde semaine. Donc vous avez bossé 12 jours d'affilée entre le mardi de la première semaine et le samedi de la deuxième semaine. Et vous avez bien eu une journée de repos par semaine. Le lundi de la première semaine, le dimanche de la deuxième. Le droit est parfois un peu trop loin du réel. Surtout quand il est interprété par des gens qui n'auront jamais à subir les conséquences de leurs décisions. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses et notamment du document que produit chaque année l'assurance maladie. En l'occurrence, pour l'année 2024, on apprend qu'il y a eu 1082 morts du fait du travail liés à des maladies ou liés à des accidents de travail ou liés à des accidents de trajet. Et bien ça, c'est remis en cause par un journal en ligne qui s'appelle Contrepoint. Attention, c'est pas le Contrepoint communiste, c'en est un autre. C'est celui de l'IREF, de l'Institut de recherche économique et sociale. L'Institut de recherche économique et sociale, c'est un institut libéral, un think tank, comme on dit, qui a son rond de serviette à CNews et à Europe 1, par exemple. Ah bah ouais, déjà, ça donne une petite idée. Je vous rappelle quand même que fascisme et libéralisme économique n'ont jamais eu aucun problème. Les fachos peuvent être ultralibéraux. Et d'ailleurs, il y a un parti qui s'appelle le Parti National Libéral. Tout va bien. Il n'y a pas de problème à partir du moment où on peut exploiter les populations, que ça soit avec un gouvernement de FAF ou un gouvernement de centre-gauche. Oui, vous savez, on met un petit peu de social dans le libéral. Ouais, si tu veux, mon gars. Mais bon, nous, on va continuer à les exploiter quand même. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, le communisme, là, non, ça, c'est impossible. Donc, fascisme et libéralisme n'ayant aucun problème, sur CNews, on nous vante les deux. On nous vante les deux aussi sur Europe 1, on nous vante, et c'est pourquoi un certain Michel Kahn, directeur de l'IREF, est régulièrement interviewé sur ces chaînes. Eh bien, dans le journal Contrepoint du 26 novembre, un article nous dit « Mort au travail de point, l'assurance maladie gonfle-t-elle les chiffres ?» Point d'interrogation. Oh, 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 bah oui, le coup du point d'interrogation. Ah, mais je ne fais que poser une question, hein. Ah bah, du coup, ça permet de remettre en cause, d'instiller un petit peu de doute. Oui, vous voyez, la création du doute, ça, c'est important. Eh bah oui, les chiffres de l'assurance maladie, maintenant on ne peut plus les croire. En tout cas, c'est ce que va nous vendre l'IREF à propos de ces chiffres. On en parlera la prochaine fois, puisque là, on a préféré vous parler de quoi ? Eh bien, on a préféré vous parler des municipales.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Dans la dernière émission, nous avions abordé l'idée de la compétence générale des communes qui leur permettent d'assumer municipalement les services nécessaires à la commune. Tiens, par exemple, une commune ou une communauté urbaine pourrait avoir une imprimerie qui fasse les affiches, les magazines, les tracts, etc. nécessaires à l'activité communale ou communautaire. Ouais, par exemple, la compétence générale donne donc le droit à une commune de produire de la nourriture pour ses besoins. Et des besoins, il y en a. Par exemple, les écoles maternelles et primaires qui sont du ressort communal de Le Mans, il y a plus de 7000 bambins qui mangent à la cantine chaque jour. Tiens, il y a des EHPAD publics municipaux, il y a les agents de la municipalité qui doivent se nourrir également, pourquoi pas une cantine administrative. Tout ce beau monde pourrait être nourri par des fermes municipales. Un délire ? Ah ben non, pas vraiment. Une commune de Tours Métropole, Chambray-les-Tours, s'est lancée dans le mouvement depuis 2021. Nous avons contacté l'élu en charge du projet, devenu réalité, qui se présente lui-même.
Yves Delcroix, je suis élu conseiller municipal depuis 2020. Je suis en délégation sur l'environnement et les espaces verts de ma commune et avec une mission très précise de délégation sur l'installation d'une ferme maraîchère municipale.
Du légume donc estampillé Chambray-les-Tours qui est consommé à Chambray-les-Tours, on peut pas faire plus local. Depuis quand ? Pour qui ? Comment ? Yves Delcroix nous en dit plus.
Quand est-ce que cette ferme municipale, donc comme le nom l'indique, gérée par la municipalité, a été mise en place ?
Son installation officielle a débuté à partir de l'embauche du maraîcher, c'est-à-dire en mars 2021, sachant qu'elle a été initiée déjà un petit peu dans le mandat précédent, mais moi j'avais la mission dès mars 2020 de commencer à tracer la feuille de route de la construction de ce projet.
Vous dites que ça avait été initié dans la mandature précédente. D'où vient l'idée ?
L'idée, effectivement, vient déjà de la mandature précédente de développer la fourniture de produits alimentaires, entre autres de légumes, voire de fruits, pour les cantines scolaires, dans un objectif d'alimentation bio, sachant que la commune avait déjà, vers 2018-2019, 50% de son alimentation était déjà certifiée bio, et que depuis fin 2020, nous sommes à 100% bio sur la cuisine centrale. Donc il y avait déjà cette volonté politique de vouloir faire une alimentation certifiée bio pour les enfants. Ça, c'était un premier sens. En parallèle, cette équipe municipale du mandat précédent avait aussi l'envie, pour produire, d'installer des maraîchers ou un maraîcher. Nous avions une parcelle sur notre territoire de 2 hectares, qui d'ailleurs est aujourd'hui la parcelle où nous avons notre ferme maraîchère municipale. À l'époque, moi, je travaillais encore j'étais encore en activité. J'étais ingénieur conseil auprès des collectivités, mais j'avais une expérience en arboriculture fruitière. Je connaissais tout ce qui était de l'agronomie, et donc je travaillais à la Chambre d'agriculture. J'ai donc été consulté par la commune de Chambry-les-Tours en 2018. J'étais pas encore du tout élu, avec des confrères spécialisés en maraîchage et aussi en gestion. On a regardé le dossier et nous, on avait émis des grandes incertitudes. Enfin, on avait quand même expliqué à la commune et aux élus en place à l'époque que ça paraissait risqué d'installer un agriculteur ou un couple sur une surface peut-être insuffisante et surtout sur des sols qui nous paraissaient à l'époque pas du tout convenable dans un process de culture traditionnelle. À l'époque, ils n'avaient pas vraiment précisé si c'était bio ou pas bio. Il y avait un peu cette tendance-là, mais bon, c'était pas très clair. Donc du coup, moi, je suis arrivé en 2020 à la mandature et Monsieur le maire continuait avec l'équipe déjà en place, puisqu'il y avait des anciens élus qui avaient reconduit et qui soutenaient l'idée d'installer des maraîchers. Et moi, j'avais mis carrément mon veto, si tant est que j'avais un certain pouvoir à l'époque, de dire moi, je signe pas au risque de, dans 2 ans, voir un agriculteur qui échoue. Et j'ai donc proposé l'idée de faire une ferme en régie municipale. Ça a un peu étonné le maire. Je lui ai amené des arguments à l'époque. Je me suis appuyé d'ailleurs sur l'expérimentation, même plus que l'expérimentation, le concret de la ville de Mouans-Sartou, qui était à l'époque la commune qui avait la plus ancienne activité sur ce domaine-là. Je m'étais aussi rapproché d'une autre commune du côté de Saint-Étienne, et également une commune dans la banlieue parisienne qui avait 2 ou 3 ans de recul sur ce domaine-là. En parallèle, on était aussi membre d'une association qui s'appelle 1+Bio, qui travaillait avec nous sur la partie alimentation. Donc, elle était plus proche sur la partie cuisine. Et du coup, c'est par leur biais qu'on a eu d'autres éléments, d'autres exploitations installées en régie dans des collectivités à travers la France. Par exemple, dans le Gers, à la Grolée, du côté de Montpellier, il y en avait également. Donc, quand on a enclenché ce projet, en mars 2021, l'embauche de notre maraîcher, on devenait la 22e ou 25e collectivité à installer une ferme en régie municipale.
Et depuis 2021, le mouvement s'accélère lors des rencontres nationales des fermes publiques qui avaient lieu à Épinal en juin 2025. 55 fermes étaient recensées, pour la plupart communales, mais aussi métropolitaines, comme à Lyon, et départementales, comme dans les Alpes-Maritimes, où 3 sites sont en cours d'aménagement. Une 30aine de collectivités étaient présentes en observateurs, genre écolo-curieux, tu vois. Un mouvement naît donc avec l'initiative de la commune de Mouans-Sartou, près de Grasse, dans le 06, décidément les Alpes-Maritimes. 10 000 habitants, un maire écolo depuis 1974, qui démissionne en 2015, remplacé par son fils. Mais bon, voilà, tout a été lancé à partir de 2011. Hein, c'est là qu'est née la première ferme communale moderne, en 2011, à Mouans-Sartou. Une ferme qui rappelle les communs des terres qui appartenaient aux populations et qui étaient gérées pour un profit collectif. Des communs qui, petit à petit, ont été démantelés au 19e et au 20e siècle par des lois rendant leur gestion de plus en plus complexe. Ah ben oui, les libéraux étaient au pouvoir. Un mouvement divers qui intègre diversement les populations et donne des statuts divers aux fermes. Qu'en est-il à Chambry-les-Tours ? On écoute Yves Delcroix, élu de la commune en charge de cette ferme municipale.
Quel était le lien avec la population pour la mise en place de cette ferme ?
On a toujours eu des liens très étroits avec les associations de parents d'élèves. On a des élus qui sont très très proches des parents. Et donc, il y avait une vraie demande des parents d'aller vers une alimentation plus saine. On définissait pas encore la notion de bio ou pas bio. On était déjà en 2018 à 50%, ce qui fait que il fallait continuer à enclencher ce processus. Donc, il y avait cette demande-là du côté de l'alimentation. Il n'y a pas eu de réunion formelle, on n'a pas fait de demande publique ou d'investigation auprès du public pour savoir si vous voulez qu'on fasse une ferme en régie. Je pense que les gens ne connaissaient pas ce terme-là. Donc, il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. Par contre, le maire, quand il a lancé son nouveau mandat en 2020, dans son programme, il avait écrit « installation d'une ferme », il n'avait pas précisé encore en régie, « en vue de produire des aliments bio, légumes, pour la cantine centrale ». Donc, il l'a présenté en réunion publique, j'étais présent évidemment. Donc, il y a vraiment eu une information très large. On n'a jamais eu d'opposition, c'est vraiment l'unanimité qui a été validée. Et ce qui fait que le public derrière n'a jamais été contre. J'allais dire une chose toute simple, quand vous n'avez pas de plainte, quand vous n'avez pas de râlerie, c'est plutôt bon signe. Voilà, on a rarement, mais on a quand même des parents qui nous reconnaissent, nous disent, lorsqu'on fait des portes ouvertes, bah ça c'est chouette, nos enfants ils s'en plaignent pas, ils sont contents de ce qu'ils mangent, ils découvrent des nouveaux produits, ils nous interrogent, ils nous font réfléchir sur la production. Donc vraiment aujourd'hui on est rentré dans un cercle vertueux et c'est tant mieux.
La ferme des Chambrésiens est en régie municipale. Alors, une régie simple, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce statut ?
Ça l'est du fait que, si vous voulez, toute la comptabilité de cette ferme, qui est bien traçable, on a vraiment une comptabilité claire, elle est fondue dans l'ensemble du budget de la mairie. On n'a pas créé en tant que tel une régie avec un responsable dédié. Il n'y a pas un budget annexe, par exemple, comme on pourrait avoir ce qu'on a chez nous sur un développement, je prends cet exemple-là, de développement d'un éco-quartier. Il y a vraiment un budget annexe. C'est vraiment mis à part. Là, c'est pas le cas. La gestion de cette ferme est vraiment intégrée dans le budget général, mais elle est distinguable. On peut vraiment la tracer, j'allais dire, à l'euro près.
Donc une ferme en régie simple, en régie, voilà. Ce qui veut dire que la ferme des Chambrésiens n'a pas de budget propre, sinon ce serait une régie autonome et pas de directeur, ce qui reviendrait alors à une régie personnalisée avec une personnalité morale, un conseil d'administration et tutti quanti. Donc pour toutes les collectivités qui seraient intéressées par la production de nourriture traçable et saine pour les populations de son territoire, et faire ça en régie, le département de l'Hérault a produit en 2024 un guide facilement trouvable sur les internets. La preuve, je l'ai trouvé. Alors, comment ça se passe pour le personnel ? On continue avec Yves Delcroix.
Mais ça veut dire que les gens qui travaillent sur cette ferme sont intégrés eux aussi au personnel de la commune ?
Aujourd'hui, nous avons recruté une personne qui est notre maraîcher en responsabilité technique, mais aussi de gestionnaire malgré tout. Donc il est aujourd'hui recruté comme agent municipal dans le cadre d'un contrat de projet. C'est un contrat un petit peu particulier que peuvent avoir les collectivités qui permet de recruter une personne en vue d'un projet spécifique. Donc là, le projet était le développement de la ferme maraîchère. C'est des contrats qui sont renouvelables en 2 fois 3 ans.
On ne s'improvise pas paysan. Est-ce que vous pouvez me dire si, justement, vous avez été aidé de quelque manière que ce soit ?
On peut séparer deux choses. D'abord, le recrutement. Pour le recrutement, on a fait appel en fait à des structures comme la Chambre d'agriculture, à Biocentre, donc qui est l'organisme des exploitations agricoles et, de la région Centre. Et nous avons fait appel aussi à des centres de formation. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé notre maraîcher. C'est à travers le centre de formation de la région parisienne, dont j'ai oublié le nom, qui a une particularité, c'est qu'il forme des maraîchers en biologique. En soutien ensuite financier, nous n'avons eu aucune aide, sauf pour l'installation des 3 containers qui sont aujourd'hui sur notre site. Ils nous servent de plateforme technique, bureau, frigo et stockage ultimatériel. Ces 3 containers ont été prêtés par la métropole de Tours.
Donc pas d'aide financière particulière, financée à 100% par les
par Chambry-les-Tours, voilà, je ne sais pas ce que je cherchais. Et donc, de fait, ben, c'est possible, ça demande un engagement. Hein, et comme le dit Yves Delcroix, et on l'entendra la prochaine fois, c'est très très politique tout ça. Eh ben oui, ça dépend si on s'engage, ça dépend. Mais alors du coup, si on est une collectivité de gauche attachée au bien-être de toute la population, et en particulier des petits, si on prône la solidarité et que l'objectif est d'apporter à tous et pas seulement à ceux qui ont les moyens de la nourriture qui ne favorise pas la perturbation endocrinienne, par exemple, on doit avoir dans son programme, si on est une liste de gauche, le projet d'une ferme municipale qui fait du 100% bio. Ce qui, à terme, permettrait par exemple de proposer de la Batavia bio plutôt que de la Batavia conventionnelle, comme dans le repas des cantines Mancelles le jeudi 4 décembre. Idem pour le coulis de potiron du vendredi 19. Et si on a les chocottes parce que on s'improvise pas paysan, on pourra trouver avantage à se rapprocher de la maison d'éducation à l'alimentation durable qui a été développée à Mouhans-Sartou. Tiens, Mouhans-Sartou, on en parlait tout à l'heure. Cette maison, et je cite le site, à la fois service municipal public, centre de ressources, lieu de visite de collectivités engagées, outils de recherche scientifique et support pédagogique. Un peu plus loin, toujours sur son site, on peut lire, sur le site donc de la maison d'éducation à l'alimentation durable, vous représentez une collectivité qui cherche à développer un peu, beaucoup, une politique alimentaire durable. Pour vous aider à accélérer la mise en œuvre de votre projet sur votre territoire, nous avons mis au point une précieuse boîte à outils qui vous permettra de gagner du temps. Eh, à bon entendeur. Mais eh, au fait, ça coûte combien une ferme municipale comme celle de Chambry-les-Tours, ou plus ou moins? Et ça produit quoi? Autant de questions auxquelles Yves Delcroix répondra la prochaine fois.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
C'est bientôt Noël. Ah bah oui, on va finir par le savoir. Il y a du marché de Noël un petit peu partout. Eh oui, je vous rappelle qu'en tant que consommateur, vous êtes censé consommer. Donc, allez consommer. Et puis, on a des reportages à la télé, à la radio pour nous dire d'aller consommer. Et puis, on a aussi des gens qui, autour de nous, nous disent, au fait, tu fais quoi pour Noël? Alors, allez consommer. Par exemple, si vous voulez consommer et que vous voulez offrir des livres, n'oubliez pas qu'il existe une librairie à Paris qui s'appelle la librairie Quilombo. Quilombo, Quilombo, que l'on peut trouver sur les internets, sur librairie-quilombo.org. C'est une librairie où on peut trouver des choses de qualité, par exemple sur le mouvement libertaire, sur la révolution espagnole, sur la culture de masse, les alternatives, le monde paysan, etc., etc. Ouais, ça changera du dernier roman à la mode. Donc, librairie-quilombo.org. Et si vous allez à Paris, c'est juste à côté du Centre international de culture populaire, en l'occurrence au 23 rue Voltaire, dans le 11e arrondissement. Sinon, on aurait pu vous dire également que samedi 29 novembre à 14h, et c'est là, parvis de la gare Nord, un rassemblement contre les intervention israélienne et en soutien à la population palestinienne. Le samedi 29 également, il y a un café réparation à l'Allumette. L'Allumette, c'est 7 rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu. Le café réparation a lieu de 14 à 17h et c'est en association avec Pontlieu en transition. Et d'ailleurs, l'Allumette a toujours besoin d'argent pour continuer ses activités. Donc, vous pouvez retrouver ce centre social autogéré sur helloasso.com. Helloasso.com, vous allez dans la barre de recherche et puis là, vous mettez Solidarité Sarthe et vous tomberez sur l'Allumette. Mardi 2 décembre, on l'a dit tout à l'heure, mouvement de grève d'une journée. Renseignez-vous pour savoir si ça peut pas se prolonger, mais comment on fait pour participer. Et puis si vous voulez connaître plein de choses, je me dépêche, si vous voulez savoir plein de choses, n'hésitez pas à aller voir sur larnapé.info. Larnapé, il y a 2 heures à la fin, point info, puisque c'est un journal en ligne qui fait partie du réseau Mutu et qui a pour but de nous informer sur ce qui se passe en Sarthe et en Mayenne. Et d'ailleurs, le 13 décembre, mais on en reparlera la semaine prochaine, n'oublions pas qu'il y a la manif de facho annuelle et qu'il faut peut-être les accueillir. Que vous dire de plus? Si, allez voir sur sarthe.demosphère.net. Là aussi, il y a un agenda culturel et militant qui peut vous donner des informations intéressantes. Et moi, là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au revoir. Ouais, allez, on va le faire mieux. Allez, au revoir.